C'est bon de vivre tout cela ensemble, dans la présence du Seigneur, mieux le connaître, mieux l'aimer. Voilà, on va prendre le temps qu'il nous reste pour méditer sa parole. Merci bien en tout cas aussi aux musiciens d'être là. Ce n'est pas toujours facile pendant l'été de permettre à ce qu'on ait toujours une équipe. Et merci bien en tout cas. On va lire un texte qui va nous conduire un peu plus loin dans notre sixième potentiel que nous voulons développer au niveau spirituel pour devenir des chrétiens adultes, matures. On voit les apôtres qui combattent tellement pour les églises qu'ils ont implantées en disant « Mais vous devriez devenir des maîtres, des parents, et si souvent vous êtes encore des enfants parce que... L'Église du premier siècle, comme celle des derniers siècles, avait une telle responsabilité, un tel mandat, et c'était lié quand même à la maturité. On a donc besoin de grandir et d'acquérir toute une série de compétences. Dans le livre de Josué, un texte que vous connaissez bien, mais il va nous servir pour ce qu'on veut voir aujourd'hui, dimanche prochain. Puisqu'on clôture cette question de notre potentiel de passion pour Dieu. Josué 1, okay. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donnerai aux Israélites. Tout lieu... que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Jusque-là, un beau texte, bien connu. Notre amour passionné pour le Seigneur. Alors, quelques mots d'introduction. Je crois qu'on ne cesse de nous le dire, et je crois que nous ne cessons de le découvrir. On vit un temps particulièrement unique sur notre planète. Et pour tous, je crois que les fondations de nos vies sont vraiment remises en question. On ne s'imagine pas parfois qu'on vit des temps uniques. Et je ne vais pas répéter pourquoi, on le sait. Mais les fondations sont ébranlées. Et inévitablement, on se pose des questions tellement existentielles. Mais qu'est-ce qui est stable, tout compte fait, de ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui unit ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment primordial? Si tant de choses devaient disparaître, qu'est-ce qui est vraiment primordial? La semaine passée, il était question de préparer la croisée des chemins. Oh, les grands axes! Mais si souvent, les petits chemins de tous les jours s'équipaient pour la croisée des chemins. Mais aujourd'hui, on se pose la question, mais quelle est la direction principale de notre vie? Quand tout semble perturbé, quelle est la direction principale de mon existence? Quel est l'objectif majeur de ma vie? Des événements comme ça posent ces questions. Ma carrière? Est-ce que ma carrière, c'est vraiment l'objectif premier? Est-ce que ma famille, juste ma famille, ce n'est que ça, mon existence? Les biens matériels? Le succès et ainsi de suite? Je crois qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que l'état psychique de beaucoup est méchamment secoué, si ce sont les réalités d'en bas qui unissent notre vie, qui concentrent notre existence, si ce sont les réalités d'en bas, alors je crois que oui, le bouleversement est total parce que tout semble tellement mouvant, instable. Mais malgré les circonstances difficiles, je voudrais nous dire, ne nous laissons pas piéger en tant que chrétiens. Ne nous laissons pas piéger, parce que le sens de notre existence, ce qui unit nos vies, la priorité de notre vie, l'objectif primordial, ce pourquoi nous sommes là, c'est la relation d'amour passionnée avec Dieu. On a vu déjà pas mal de choses au niveau de nos compétences. Et c'était bon qu'on s'arrête pour réaliser que, attention, être chrétien, c'est pas accumuler toute une série de techniques, faire des choses. Ce qui unit nos vies, la priorité, le chemin sur lequel il y aura des croisés, mais toujours sur une direction unique, c'est la relation passionnée d'amour que nous avons avec Dieu. Ce Dieu qu'on a chanté, on a lu des textes qui nous décrivent sa présence. C'est pas juste pour que nous connaissions, c'est pour que nous ayons une relation incroyable d'intensité. Et là, il nous faut grandir. Notre compétence doit se parfaire. On l'a dit au départ de ce chapitre, il n'y a pas de vocation plus noble pour nous que celle d'aimer ce Dieu infini et personnel de la création et de la rédemption. C'est notre vocation première. Ce pourquoi nous avons été fabriqués, pour être connectés à Dieu, pour le connaître et pour l'aimer. On a donc besoin de vivre cette priorité en mode 4x4. Hein, cette voiture qui, on la cote pour l'instant, tout terrain. Et le terrain pour l'instant est chahuté, ok. Mais on a besoin de vivre cette priorité dans un moment comme celui-ci. Alors comme tout amour, on a besoin de l'entretenir. On a besoin de temps d'intimité. Alors souvent on reproche aux églises et aux prédicateurs de rester souvent dans la théorie. Et je voudrais pas, dans un chapitre comme celui-ci, nous laisser simplement avec ce défi, oh, il faut que tu aimes Dieu, il faut que... Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ces deux dimanches-ci, je voudrais nous donner des moyens pratiques. Alors, c'est pas une technique. Hein, quand un couple ne repose plus que sur des techniques, ça tient pas la route. Mais en même temps, sans qu'on ne s'en rende compte, entretenir une bonne relation, ça se fait presque inconsciemment à travers une méthode, des moyens de communication. Et parfois, les chrétiens se sentent un peu démunis dans le comment vivre la relation avec Dieu. Donc, j'aimerais très concrètement nous offrir une méthode qui a fait ses preuves tout au long de l'histoire. Elle est profondément... on dit que c'est la méthode sans méthode. Elle est très simple, elle est efficace, elle est profondément ancrée dans l'Écriture et elle a parcouru l'histoire de l'Église. Les pères latins l'ont appelée dès le 5e siècle. Alors le mot vous semble un peu bizarre, mais vous allez voir que c'est la lectio divina. La lectio divina, littéralement la lecture divine. Le fait que Dieu nous lise, que Dieu nous parle. Ce qu'on veut, ce que je voudrais, c'est de nous équiper pour une relation plus affermie, plus un rendez-vous avec Dieu qui ne va pas vous frustrer, où vous allez sentir votre amour pour lui, son amour pour lui vraiment grandir. Alors, dans la Lectio Divina, il y a, alors, certainement que vous le vivez déjà, parfois même sans le savoir, et c'est tant mieux. Il y a 4 étapes qui peuvent être interverties. Je voulais vraiment la partager avec vous parce que très souvent, peut-être, on en vit 1, 2, 3 et on oublie que il y a un ensemble de choses. L'objectif, dans la rencontre avec Dieu, c'est ce moment de contemplation. Adore-moi. Ce moment d'intimité, de relation. Mais ça passe par, vous savez comme moi, hein, s'agit pas, au lever, de dire à ton conjoint, oh, partage-moi les secrets de ton cœur. Non. Il faut un climat, il faut... Hein? Et je pense que spirituellement aussi, c'est comme ça. Il faut qu'on pose un climat de quatre étapes. Là, je vais en voir deux aujourd'hui et deux dimanche prochain. Vous êtes obligés de revenir encore deux dimanches. La première, donc je vous rappelle, même si ça sera présenté un peu comme une méthode, c'est du relationnel. D'accord? Premièrement, un temps de lecture. Un temps de lecture. Je vais chaque fois faire des suggestions pratiques. Déjà vous dire, avant d'introduire globalement la lecture, qu'il faut la dissocier d'une lecture qu'on appelle cursive, où vous dites, voilà, moi par jour, je veux lire autant de chapitres. Hein. Ici, on va voir que c'est un petit texte, hein, une petite pépite que tu vas, dans la deuxième étape, méditer. Donc, ok, on comprend, c'est différent. Ce petit texte, tu peux le sortir de ta lecture cursive. Hein. Donc, ce n'est pas une question de dire, ok, dans la lecture divina, on ne médite pas sur quatre chapitres. Parfois, ça peut être un mot, un verset, deux versets, juste un court épisode. Ok? Première étape, la lecture. Je voudrais nous dire d'abord une remarque générale. Il y a des choses très intéressantes au niveau de l'histoire, mais on n'a pas le temps. Parfois, on a l'impression que, même si c'était une implantation dans un endroit où il y avait peu de présence de l'Évangile, que comme si le christianisme avait démarré avec nous. Mais non, on a 20 siècles d'histoire et on a pris des habitudes, et notamment dans la lecture de la Bible, que peut-être nos pères n'étaient pas conscients de cela, mais ils avaient hérité aussi d'une approche du texte biblique. Je vous dis juste un mot. Dès le début du Moyen-Âge, la formation des responsables spirituels était marquée par deux tendances de lecture différentes. Je dis ça parce que vous allez voir que ça influence notre propre lecture aujourd'hui. Il y avait, même si on ne donnait pas ce nom-là à l'époque à ces écoles, des universités religieuses urbaines, dans les grandes villes. Et puis il y avait des centres de formation ruraux, souvent dans des monastères. Dans les universités, l'approche était très... axé sur la réflexion, sur l'étude, sur l'analyse. On s'informait, on étudiait le texte, et c'était important. Dans les centres ruraux, l'objectif était différent. C'était l'information, c'était la transformation du cœur, c'était l'accent était mis sur l'écoute de Dieu à travers la parole. D'un côté, il y avait comme une mainmise sur le texte, hein, c'est là qu'on a commencé ce qu'on a appelé la scolastique, l'étude du texte par les questions, toute la science théologique. Et puis de l'autre côté, il y avait cette exposition au texte pour que le texte ait son impact, pour que Dieu parle et transforme. Les deux sont légitimes. Les deux sont légitimes. Si vous ne cultivez qu'une des deux, soit vous allez tomber dans un intellectualisme froid, ou soit un enthousiasme souvent débridé. La lectio divina va justement permettre un équilibre. Un équilibre. Pour que tu n'abordes pas seulement le texte comme un sujet d'étude. Je me souviens, pendant ma formation théologique, c'était la période la plus sèche spirituellement. Ce qui est quand même étonnant. Si vous regardez les plans de lecture proposés par les évangéliques, très souvent, ils viennent de quel côté ? Du côté scolastique. Où on veut glaner des principes, des préceptes qui sont importants. Or, je crois que l'écriture nous est d'abord donnée pour une exposition à Dieu. Pas pour glaner des informations, mais pour la formation de nos cœurs. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais concrètement, la lecture. Donc, je vous conseille de prendre note. Note quelques dans ces quatre étapes. Premièrement, la lecture. Choisis un endroit spécial. Si possible, loin de ton bureau, ta cuisine, ton lieu d'activité, un lieu qui va être adapté à cet exercice. Faut pas de télévision. J'ai envie de dire, sanctifie, si tu le sais, dans ta maison, sanctifie cet endroit pour que ce soit un endroit où tu te sentes bien, un endroit où il fait calme, ou un endroit où tu vas pouvoir chercher Dieu. Une rencontre habituelle. Il y a un moment de rendez-vous. Quand tu veux faire un bon repas avec ton conjoint, soit tu vas au restaurant ou chez toi, mais c'est important aussi que ce soit beau. Un endroit particulier où tu viens rencontrer le Seigneur. Deuxièmement, choisis aussi un moment particulier où tu es bien éveillé. Un moment où presque systématiquement tu pourras le mettre à part. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu, aide-moi Seigneur à prendre du temps à part avec toi. Donne-moi d'avoir plus de temps. Je crois que pour nous, il s'agit plus de prendre du temps plutôt que de trouver. Il y a vraiment une détermination. Je veux prendre du temps. Et je crois que réserver du temps pour cette rencontre avec le Seigneur, c'est déjà quelque part répondre à l'initiative de Dieu qui cherche nos cœurs. Alors je sais que ça, peut-être ça ne s'appliquera pas à chacun, mais moi je vous conseille quand même, pour ceux qui le peuvent, d'offrir la première heure du matin plutôt que la dernière heure de la journée où tu es vraiment fatigué. Alors chacun a peut-être à son rythme ses obligations. Ok, l'important c'est de choisir un moment, mais quand même, peut-être si tu es suffisamment éveillé le matin, ça peut être bien. Hein, tu n'as pas encore commencé la journée, tu viens rencontrer le Seigneur. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, on pourrait mettre plus de temps si on gérait mieux le temps passé devant la télévision, devant son GSM. Quel qu'il soit, je crois qu'il faut qu'on puisse offrir nos meilleurs moments. Les moments où on n'est pas engourdi, où on est vraiment au calme, dans le silence, loin de la pression extérieure. Troisièmement, je crois que la constance et la régularité vont vraiment être essentielles. Parce que on va être tenté de remettre ça plus tard, il y a des urgences, mais on a besoin d'être constant et régulier. Parce que les bénéfices de la Lectio Divina, parfois ça prend du temps à installer ça dans nos vies. Quatrièmement, puisque ce temps de rendez-vous avec Dieu concerne tout ce que nous sommes, tout notre être, pas juste mon esprit, la position du corps est importante. Je ne peux pas être mal placé, je ne peux pas être avachi. Donc j'ai besoin de pouvoir être peut-être assis avec le tronc droit, pas trop raide, pas trop... pour que, allez, au niveau de la respiration, je sois à l'aise, la circulation, un moment où je suis bien... Je suis prêt pour ce rendez-vous avec Dieu. Cinquièmement, au niveau des choix des textes, tu peux très bien choisir un texte, un verset de ta lecture cursive, ou alors tu peux très bien avoir un programme hein, que tu choisis toi-même ou qui existe déjà et qui va te permettre de voyager dans l'écriture, hein, de pas seulement méditer les textes que tu préfères, mais de prendre et dans l'ancien et dans le nouveau. Essaye d'être systématique. Sixièmement, si tu es quelqu'un de curieux, hein, positivement, si tu as une Bible annotée avec plein de renseignements, plein de beaux dessins, tu risques d'être vite distrait. Donc, pour cet exercice, si tu sais avoir une Bible sans notes, c'est bien. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Mais le tout, c'est de te concentrer seulement sur le texte. Hein? Et si tu as un texte plus littéral, c'est bien. Septièmement, limite-toi à un passage court. Dans cet exercice-là, la qualité prime sur la quantité. Huitièmement, l'objectif, c'est toujours la relation avec Dieu. Donc, c'est pas une technique, c'est un moment de relation. Et j'ai besoin d'ouvrir ce moment par la prière pour que même la lecture soit dans sa présence. Et c'est bien peut-être de commencer en disant, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence à la lumière de ta parole. Ce que je veux, c'est que dès le départ, mon intention, c'est vraiment de rencontrer Dieu. Et je le verbalise. Neuvièmement, lis le texte plusieurs fois. Si c'est un verset, deux versets, trois versets maximum, lis-le plusieurs fois, lentement. Pour qu'il se grave dans ta mémoire à court terme. Lis-le. Laisse-toi imprégner par la parole. Et peut-être lis-le à haute voix. Vous savez que dans l'Antiquité, on lisait toujours à haute voix. On a perdu cette habitude. Mais ça nous aide à... D'abord, on va lire moins vite. Et on va laisser le texte hein, s'imprégner en nous. Dixièmement, cherche tout doucement, en le lisant, le sens du texte. commence à poser des questions, comme un disciple, pas comme un glaneur d'informations. Hein, tu cherches à ce que Dieu te forme. Et peut-être, on verra, après on arrive à la méditation, mais il y a peut-être déjà des questions qui sont en toi. Pose-les comme un disciple. Considère l'Écriture comme une fenêtre qui s'ouvre sur les réalités spirituelles. Et tu es en train de découvrir le monde de Dieu. Onzièmement, quand tu lis ce texte et tu le relis, écoute les mots. Parfois, surtout quand on est habitué de lire, à la fin, on lit les mots. Et... lis paisiblement et écoute les mots avec humilité et avec le désir d'y obéir. Parce que la lecture de la parole doit toujours s'accompagner de la foi. Seigneur, c'est toi qui parles, mais aussi du désir d'obéir à Dieu. Je veux t'obéir. Acceptons que la parole va passer au crible mes attitudes, mes habitudes, mes choix, mes émotions. Et parfois, déjà rien qu'à ce premier niveau, il y avait déjà y avoir des résistances. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses en moi qui ne désirent pas coller avec la volonté de Dieu. Et puis dès le départ, tu devras examiner ta manière d'être à la lumière de ce texte en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu veux changer ? Douzièmement, contrairement à la lecture habituelle, lecture cursive ordinaire, tu ne cherches pas à être informé, tu cherches à être formé. Nous voulons laisser Dieu nous amener à la ressemblance de Jésus, être façonné par l'Écriture plutôt que d'être informé. C'est pourquoi une attitude de prière doit vraiment présider. Hein, l'ensemble de cet exercice. Et puis, dernier point ici, évite ce réflexe habituel de chercher tout de suite la perle, tout de suite la grande idée, la grande révélation. Aborde ce moment sans condition, sans exigence, sans attente particulière. Laisse Dieu être Dieu. Il n'y aura pas toujours des grandes illuminations. Ce que tu veux, c'est simplement un moment d'intimité. Première phase, un temps de lecture. Ok ? On comprend, c'est différent de la lecture courante, mais on prend un court texte que le Seigneur peut imposer. On le lit, et on le laisse descendre au plus profond de nous-mêmes. Et puis, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, on passe de la lecture à la méditation. Alors, en passant de la lecture à la méditation, on essaye, c'est quelque chose que nous, les évangéliques, on a vraiment perdu, cette capacité de méditer. Ce que l'on veut, c'est s'imprégner de la parole. S'y plonger. S'ébattre dans ses eaux vives. Ce que l'on veut, c'est recevoir ces mots comme les mots même de Dieu pour nous. Et ça peut prendre du temps. Dieu s'est révélé pour nous parler. Et dans la méditation, on va voir ce que c'est vraiment ruminé, c'est cette parole-là, c'est plus Paul qui écrit aux Corinthiens, mais c'est Jésus qui parle à Didier, à Angelina. Et ça demande du temps dans la méditation. Le but de la méditation, c'est de pénétrer au cœur de l'Écriture et de la laisser rentrer en nous grâce au regard du cœur. La méditation, c'est se mettre en phase avec la voix du Saint-Esprit. Je suis calme, je suis serein et je laisse l'Esprit, sa voix intérieure me parler. Mon cœur rentre en résonance avec sa voix. La méditation, c'est le travail de mon désir, un saint désir. Seigneur, je veux te connaître et je laisse ce désir prendre le texte et se l'approprier. C'est l'invitation intérieure adressée au Saint-Esprit. Parle-moi, j'ai besoin de toi pour que tout mon être soit transformé à la ressemblance de Jésus. Cette démarche, elle est vraiment importante. Je lis et puis je m'expose à lui. Je laisse cette parole descendre en moi pour que mon attachement à Jésus soit plus fort. On a parlé du fait de connaître Dieu, le connaître plus intimement, pour que je l'aime plus tendrement afin de le suivre plus fidèlement. C'est toujours ces trois étapes quelque part. Te connaître plus clairement, Seigneur, pour t'aimer plus tendrement afin de te suivre fidèlement. Quand tu médites l'Écriture volontairement, tu es en train d'inviter le Christ à se former en toi. Tu t'attaches délibérément à ses paroles. C'est pour ça que je voulais lire ce texte de Josué 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est un verset très familier pour beaucoup d'entre nous, mais qui nous montre la voie du succès telle que Dieu le définit. Et ça passe par quoi ? Par une place importante laissée à la parole, à la méditation de la parole et à l'obéissance. C'est ça le succès selon Dieu. On peut dire, oui, c'était déjà là la lectio divina. Attache-toi à la parole, médite-la et vis-la. Une amie nous a prêté sa maison pendant l'été, début août, dans le sud de la France. Et on était étonnés d'apprendre que les autres amis qui étaient venus avant nous, un de leurs enfants est un pianiste reconnu. Et pendant son temps de vacances, il se fait livrer dans cette maison-là un piano avec un accordeur pour pouvoir jouer tous les jours. Il y a une belle piscine, relax. Mais en même temps, j'étais interpellé en me disant, waouh, professionnel, quoi, jusqu'au bout des doigts. Et ça m'a interpellé en me disant, mais, et nous en vacances, est-ce que tu t'es fait livrer aussi? Une belle Bible, une bonne Bible, hein, notre relation avec Dieu, est-ce que c'est, parce que c'est ça notre, notre spécificité, notre priorité, notre talent, notre richesse, là où on doit exceller. Suggestion pour la méditation, interpellant quand même, de combien on a besoin de devenir des experts dans la relation avec Dieu. Allez, on termine avec suggestion pour la méditation. C'est clair que l'amour que Dieu a pour nous amène notre amour pour lui. Je dis ça parce que je ne voudrais pas du tout que vous ayez l'impression qu'on enseigne une technique. C'est une relation d'amour. Mais qui a besoin de savoir par où elle va, d'être entretenue par des principes tout simples. Donc ne considère pas la méditation comme une technique, mais comme une intensification de la relation d'amour que tu as avec Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est toujours bien quand tu commences à méditer, tu as choisi un texte et tu veux maintenant le ruminer, c'est que tu réfléchisses d'abord au privilège que Dieu t'ait donné la foi pour avoir une relation avec lui. Quel privilège, Seigneur, je peux être devant toi et parler avec toi, te laisser m'interpeller et en même temps pense à la sainteté de Dieu. Les séraphins devant Dieu sont en train de crier sa gloire, sa sainteté. C'est un exercice saint. Notre amour pour lui, c'est quelque chose, parfois, ok, avec le temps, on peut banaliser, mais c'est important régulièrement de s'arrêter et de dire, waouh, je suis en train d'être en relation avec ce Dieu saint. Troisièmement, la méditation, comme ça a été perdu dans nos milieux, c'est un processus qui doit se perfectionner avec le temps. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, plus tu vas ruminer, je vais expliquer un peu ce que c'est la méditation, hein. Plus tu vas puiser dans l'Écriture et plus tu vas remplir tes réserves mentales de la parole de Dieu. Au bout de mois et d'années, tu vas faire l'expérience de ce qu'on appelle les réminiscences. Dès que tu vas penser quelque chose, je prends un exemple. Pour vous accueillir, je pensais le texte d'Apocalypse était choisi. Je pensais vous accueillir autrement. Et on a chanté « Car tu es bon ». Rien qu'en chantant ce chant, plein de textes venaient et plein d'épisodes. Je pensais à Jonas, je pensais à la parabole des ouvriers engagés. C'est ça les réminiscences. Un mot, un thème, un épisode, un personnage va te faire penser. Alors peut-être au début, comme tu n'as pas encore l'habitude, peut-être ton réservoir mental biblique est faible. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas une technique, c'est une relation. Mais plus tu vas méditer, plus tu vas remplir cet espace en toi. Quatrièmement, accorde-toi un temps suffisant pour apprécier le texte. Tu ne peux pas être pressé pour arriver au bout de l'exercice. C'est comme si tu allais au Louvre en courant, dans tout le musée. Tu ne vas pas en profiter vraiment. Prends le temps qu'il faut. Cinquièmement, méditer l'écriture, c'est, en hébreu, c'est ruminer. Comme la vache qui ramène trois fois l'herbe dans sa bouche. C'est mâcher un mot, une expression, un passage, un récit. C'est l'interroger, c'est le voir sous tous ses angles. C'est vraiment, et si on va au bout de l'analogie, tu l'as mastiqué et tu vas en libérer toute la saveur. Mardi, on réfléchissait sur cet épisode de la tempête, et peut-être pendant ce moment, tu vas vraiment réfléchir, et tu vas être dans la barque, et tu vas à un certain moment découvrir cette parole de Jésus pour toi. Aie confiance. Tu vois, tu l'as ruminé. Prends le temps. Sixièmement, ne force pas non plus la méditation. N'attends pas que directement, il y aura une grande illumination, une grande vérité. Si j'essaie de canaliser, ça ne me fera pas beaucoup de bien. Laisse simplement le Seigneur aux commandes de la danse. Septièmement, si tu tombes sur quelque chose qui t'interpelle vraiment, note-le. C'est intéressant peut-être d'avoir un carnet, hein, ce qui te frappe, comme ça tu peux y revenir. Quand tu médites, remplace peut-être les mots-clés par tes propres mots. Tu remplaces le mot tempête par des choses de ta vie. Hein. Tu remplaces les mots, tu t'en imprègnes. Le but de la méditation, c'est à un certain moment de faire de ce texte un texte que Dieu m'adresse. C'est Dieu qui me parle personnellement. J'écoute le passage comme si c'était lui qui me parlait. C'est plus Paul qui parle aux Corinthiens. C'est Jésus qui me parle. Neuvièmement, quand le texte vous parle vraiment, tu peux rester plusieurs jours dans la méditation. Une semaine sur le même texte. Dixièmement, on dit aujourd'hui, on est dans une société qui éveille notre imagination par toutes sortes d'images. Je crois que parfois que ça engourdit notre imagination. Il y a de trop d'images. Et si je veux être capable de méditer la parole, recevoir ce qu'elle me dit, recevoir ces images, j'ai besoin de sanctifier mon imagination pour la mettre à part. Parce que la lumière spirituelle, elle n'est pas facile à décoder. Et si tu termines le cycle de James Bond, probablement dans ta méditation, celui que tu vas voir, c'est James Bond. Donc il faut que tu sanctifies aussi ton imagination pour qu'il y ait moins d'images, pour que cette lumière spirituelle, qui est quand même parfois mystérieuse, qui n'est pas facile, on sait au niveau prophétique, c'est pas facile de voir ce que Dieu nous montre. Onzièmement, et on termine, si tu lis des choses sur la méditation, vous allez voir qu'il y a plusieurs écoles, et il y en a une, Saint-Benoît proposait ça, d'utiliser nos cinq sens pour rentrer dans la méditation. Parce que ça va t'aider à passer simplement de l'analyse dans un domaine plus affectif. C'est-à-dire, tu ne réfléchis pas seulement à ce qui se passe dans la barque, tu rentres dans la barque. Et tu essaies de vivre avec eux ce qu'ils ont vécu, tous tes sens. Tu essaies de réaliser ce que ça veut dire, l'eau qui rentre, la peur, tu vois, tous tes sens. Tu rentres dans le texte, tu le vis davantage. Et ta méditation va t'amener alors à, mais comment moi j'aurais réagi? Comment ont-ils, eux, réagi? Qu'est-ce que j'aurais pensé à leur place? Douzièmement, les psaumes sont aussi vraiment importants dans notre méditation. Ils ont nourri le peuple de Dieu tout au long de l'histoire et j'ai besoin aussi de prendre du temps dans la méditation des psaumes. Treizièmement, la méditation, elle fait intervenir non seulement l'intelligence mais aussi les émotions et la volonté. Plus je rumine l'écriture, plus ma réflexion, ma compréhension vont s'affiner. Mais en même temps, mes émotions, les sentiments de mon cœur vont s'élever. Et ma volonté va être aussi impactée parce que au moment où je vais décider de vivre ce que le texte me dit, ma volonté est renforcée. Quatorzièmement, il me restera deux points. Parfois, certains arrêtent en disant « Oui, mais moi, je suis trop déconcentré. » C'est pas grave. On a tous du mal à rester concentré et attentif. Le tout, c'est de revenir paisiblement au texte. C'est un petit peu comme un petit feu qui a l'air de s'éteindre. Ne reprends pas une grosse bûche, mais quelques petites brindilles. Reviens tout doucement au texte. C'est Thomas Merton qui disait « Il vaut mieux désirer Dieu sans être en mesure de penser clairement à lui que d'avoir des pensées sublimes le concernant sans avoir le désir d'entrer en communion avec lui. Hein ?» C'est pas grave d'être déconcentré. On revient. Et puis je termine. Certains arrêtent, souvent, on arrête notre moment à la méditation. Et s'il n'y a pas eu une révélation sublime ou quelque chose de très fort, on ne va pas plus loin. La troisième et quatrième étape nous permettra de laisser Dieu agir plus profondément encore. Mais je crois que trop souvent, notre approche, elle est psychocentrique. Ce que moi, en tant qu'être humain, je ressens. Mais ça doit être théocentrique. Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Et même si à ce moment-ci de ce rendez-vous, il n'y a peut-être pas encore une grande révélation, c'est pas grave. C'est pas grave. Mes besoins profonds, il va les satisfaire. Pas peut-être ceux auxquels moi je pense. On ne décourage pas, on continue. La semaine prochaine, on va voir que, après ça, je prends un temps dans la prière, où je transforme ce que Dieu vient de me dire en dialogue avec lui pour amener au point culminant qui sera un temps de contemplation, un temps d'adoration, un temps où tous les bruits se taisent et je suis vraiment là avec lui. Trop souvent, nous, on s'arrête aux deux premiers qui sont nécessaires pour entretenir la relation. Mais on a besoin d'aller plus loin. Vous voyez, tout simple. Hein, et on a besoin d'installer ça. Hein, alors, parfois, on y arrive bien, parfois pas, c'est pas grave. On continue. Parce que nous sommes appelés. Notre tâche la plus noble, c'est cette relation d'amour avec lui. Ouais. On se lève ensemble pour chanter un dernier chant.